Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral. Et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Vincent Roche-Léca, directeur du Théâtre de Bourg, est notre invité. Il nous parle des projets culturels du théâtre et de son tout nouveau label de scène nationale.
Reportage à Étré où l'Hirondelle s'est posée. Ce camping-car accueille des personnes qui ont besoin d'être orientées, notamment les victimes de violences conjugales.
Et le point sur les résultats des élections législatives dans notre département, c'est tout de suite dans toute l'actu en bref.
Bourg, en bref.
Un point sur le premier tour des élections législatives.
Et dans l'Ain, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES, se qualifie au second tour dans les 5 circonscriptions. Dans la première, Bourg-Nord, Morvel, Viria, le député sortant Les Républicains, Xavier Breton, sort en tête. Il est suivi avec à peine 2 points d'écart par le candidat NUPES, Sébastien Guéraud. Pour la deuxième circonscription, Montluel, Meximieux, Romain Daubier du parti Ensemble d'Emmanuel Macron arrive en tête, suivi par Lumière Lapré, la candidate NUPES, avec seulement 1 point d'écart. La troisième circonscription, Gex, Belley, même scénario, un candidat de la majorité présidentielle en tête, c'est la députée sortante Olga Givernet, suivie par le candidat NUPES, Christian Joly, mais là l'écart est de 7 points environ. Quatrième circonscription, Bourg-Sud, Perona, Villars-les-Dombes, le Rassemblement national est en tête avec Jérôme Buisson, suivi par le candidat NUPES Philippe Lerda, là aussi avec près de 7 points d'écart. Et enfin, la cinquième circonscription, Oyonnax, Nantua, Ambérieu-en-Bugey, Damien Abad, le candidat sortant et ministre des Solidarités dans le gouvernement, obtient plus de 30% des suffrages exprimés. Il est suivi par la candidate NUPES Florence Pisani, 10 points les séparent. Et l'abstention de ce premier tour est de 52%. Moins de la moitié des Indinois se sont déplacés pour aller voter au premier tour. Et le second tour a lieu ce dimanche 19 juin.
Le département de l'Ain annonce un audit sur le fonctionnement de l'ADSEA.
Les employés de l'Association départementale de la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, aussi connue sous le nom de Sauvegarde 01, ont plusieurs fois exprimé leur colère. Ils dénoncent leurs conditions de travail. Les organisations syndicales ont alerté le département sur cette situation. Il finance en grande partie l'association et a décidé de lancer dès que possible un audit sur la gouvernance, le management et l'organisation de la structure. Il servira d'appui pour prendre d'éventuelles décisions. La DSEA a notamment pour mission l'accueil des mineurs non accompagnés, une mission déléguée par le département de l'Ain.
Un spectacle en soutien à Mirko et sa famille.
Mirko est un enfant d'origine albanaise scolarisé à l'école des Vennes. Son papa a été expulsé vers l'Albanie il y a 3 mois. Les parents d'élèves sont mobilisés depuis. Et vendredi 17 juin, ils organisent un spectacle gratuit dans la cour de l'école des Vennes. C'est la compagnie des sœurs Goudron qui sera sur scène et c'est ouvert à tous et gratuit.
Des lycéens d'Ambérieu-en-Bugey ont reporté un prix vidéo.
Je filme le métier qui me plaît, c'est le nom de ce concours. Lucas bénévole à Radio B et ses camarades ont filmé le métier de Martial, surveillant au lycée de la Plaine de l'Ain. Ils sont allés au Grand Rex et ont reçu 2 prix, métier de la santé et de l'accompagnement et un prix communication. Bravo à eux.
Allez. Altec organise une après-midi science pour les enfants et les ados.
C'est ouvert à toute la famille ce mercredi 15 juin de 14h à 17h dans les jardins de la MCC. Et vous pourrez lancer des fusées à eau ou encore faire du papier ensemencé. Une buvette sera aussi ouverte. Et ce rendez-vous Science en Herbe va mettre en avant les 8 jeunes qui ont participé au Club des Sciences pour la saison 2021-2022 et au programme aussi l'annonce des thèmes du Club Science de la rentrée prochaine.
L'invité de Radio B.
Attendu depuis des années, le théâtre de Bourg-en-Bresse a obtenu le label Scène Nationale. 7e établissement à l'obtenir en Auvergne-Rhône-Alpes et le 77e en France. Un label synonyme de hausse de financement de l'État. Bienvenue quand la région Auvergne-Rhône-Alpes a baissé ses subventions culturelles. On en parle avec Vincent Roche-Léca, directeur du théâtre de Bourg-en-Bresse. Vincent Rochelet, bonjour.
Bonjour.
Alors, troisième mandat à la tête du théâtre de Bourg-en-Bresse et une première scène nationale de l'Ain. Expliquez-nous.
Oui, c'est une excellente nouvelle qui est arrivée jusqu'à nous fin mars, puisque c'est officiel depuis fin mars. On n'a pas pu trop le dire au mois d'avril avec la période de réserve électorale de l'État avec les présidentielles. Mais du coup, ça y est, on a ce label derrière lequel on courait depuis de nombreuses années, parce qu'on a même remonté des anecdotes de tentatives de candidature il y a presque 20 ans.
Qu'est-ce que ça représente pour une équipe comme celle du Théâtre de Bourg-en-Bresse d'obtenir ce label ?
Il y a forcément une certaine fierté, parce que c'est un gros travail collectif pour arriver à cette reconnaissance-là, de tous les partenaires publics, des salariés, une fidélité sans faille du public. On se dit aussi qu'avec les artistes avec lesquels on travaille depuis quelques années, nos accompagnements n'étaient pas vains. Donc c'est à la fois une forme de reconnaissance, de fierté. On a aussi un petit peu une angoisse d'être à la hauteur, parce que du coup on a un certain nombre d'attendus, et puis il va falloir qu'on change de rayonnement, de dimension à certains endroits. Donc à la fois ça nous demande une certaine responsabilité supplémentaire.
Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour le théâtre de Bourg-en-Bresse ?
Alors il y a des choses très concrètes, plus ou moins visibles. La chose la plus concrète, qui n'est pas la plus visible, c'est l'accompagnement des artistes. Le public peut-être pense qu'on est fermé quand les portes sont closes, mais il y a quasiment tout le temps des artistes en répétition, en train de préparer des nouvelles pièces. Ces artistes, on les accueillait nombreux déjà. On n'arrivait pas à couvrir complètement les besoins financiers de ces équipes-là, de couvrir complètement les salaires des artistes qui répétaient. Et là, on va pouvoir accompagner financièrement grâce aux moyens supplémentaires de l'État, parce que c'est vraiment surtout ça qui bouge. C'est que l'État, qui avant était à 4% du financement global, va monter progressivement jusqu'à 20 ou 25% du financement. Donc c'est des moyens financiers supplémentaires pour notamment accompagner plus fortement les artistes en résidence, en répétition, sur la mission de production, comme on dit dans notre jargon. Donc ça, c'est visible du côté des artistes soutenus. C'est pas la chose la plus visible du côté du public. Pour le public, la chose qui sera sans doute la plus symptomatique, la plus évidente, c'est qu'on va pouvoir convoquer des plateaux plus nombreux, plus fournis, avec un nombre d'interprètes sur scène plus nombreux, et aussi on est attendu sur plus de propositions internationales. Du coup, au gré des futures années, le temps que l'État nous rejoigne progressivement financièrement, on risque d'avoir des équipes plus nombreuses sur scène et plus de profils internationaux.
Ce que vous dites, c'est qu'il va y avoir des changements sur scène, mais qu'après, donc, le théâtre reste une salle à un peu plus de 500 places, et qu'il y a aussi la moitié de vos spectacles qui se passent sur tout le territoire. C'est quelque chose qui va se développer.
Oui. Vous mettez le doigt sur deux choses hyper importantes, Audrey. La première, c'est que... Parce que j'ai eu pas mal cette discussion depuis qu'on est labellisé sur... Quel type d'artistes vont pouvoir être convoqués ? On n'a pas vocation à aller chercher des superstars qui remplissent des salles de 5000 places. On reste une salle de 500 places, en tout cas notre camp de base, avec la petite salle qui fait 150 places à côté, puisqu'il faut au moins deux salles pour être scène nationale. Et c'est vrai que la moitié des spectacles qu'on propose sont en balade, dehors, en art de la rue, où on fait le coucou chez nos collègues qui l'acceptent, un coup à la tannerie, un coup chez le monastère. On a beaucoup de plaisir à imaginer des programmations conjointement, mais il y a aussi beaucoup de spectacles qui se baladent dans les villages, en milieu rural. Ça, tout ça va continuer. Après, on va pouvoir, c'est la formule que j'utilise pas mal en ce moment, rêver plus grand. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas des petites scènes vertes, qui est un dispositif auquel les gens sont assez attachés, puisque ça fait presque 20 ans qu'on propose des spectacles pour le jeune public dans l'agglo, c'est souvent des petites formes, solo, duo, trio. On espère pouvoir balader des spectacles un petit peu plus costauds, pour pouvoir en faire profiter le plus grand nombre. Et pour terminer, juste une petite précision sur ce que sont les scènes nationales en France. Il y a un cahier des charges qui demande à rester absolument pluridisciplinaire, c'est-à-dire de proposer du théâtre, de la musique et de la danse. Donc ça, on continuera, bien sûr. Et on a une petite couleur particulière par rapport aux 76 autres scènes nationales, puisqu'on est la 77e en France, la 7e en région, et que c'est donc un événement, puisque ça n'a pas eu lieu depuis 3 ans, une nouvelle labellisation. C'est qu'on va conserver notre couleur auquel les gens se sont habitués autour du cirque, de la marionnette et puis des spectacles pour l'espace public et l'enfance.
Vous avez dit donc plus de subventions de l'État, donc qui sera à hauteur de 25%. Mais à la région, les subventions sont en baisse. Quelle a été votre réaction ?
Ça nous occupe pas mal depuis un mois ou deux. C'est ce changement de politique culturelle du côté de la région. Du coup, les réactions, elles sont multiples, selon qu'on est plus ou moins touché par ces baisses drastiques. Il faut quand même peut-être rappeler à vos auditeurs que Il y a eu toute une série de votes là, en mars et en mai concernant le spectacle vivant notamment. Et que ces mêmes lieux, compagnies, festivals, il y a un an, se répartissaient 21 millions d'euros. Cette année, les mêmes se sont répartis 4 millions d'euros de moins. Et que voilà, ça fragilise énormément de projets. Il y a 140 structures qui sont impactées. Donc nous, on se mobilise pour les collègues aussi beaucoup, puisqu'il y a notamment pas mal de théâtres de ville avec lesquels on travaille qui sont largement impactés. La labellisation de scène nationale nous a protégés. On n'a pas eu de baisse, nous, au théâtre de Bourg-en-Bresse.
Vous pensez que ça aurait été différent s'il n'y avait pas eu le label ?
J'en sais rien. Je pense que la baisse qui a été appliquée à toutes les scènes conventionnées, ce qui était notre conventionnement d'avant, peut-être nous aura été appliqué également. On ne le saura jamais. En tout cas, ce qui est factuel, c'est qu'on est maintenu, que globalement, le département de l'Ain s'en sort plutôt pas mal, puisqu'on a fait un comparatif des 12 départements, on est le département le moins touché. Mais on a une pensée pour nos collègues d'Ambrenais, qui perdent presque 15%. H2M aussi, sur Bourg, perd l'intégralité de sa subvention. Et heureusement que certaines subventions, comme la nôtre, celle de l'Arpent Canapas ou d'Arnica, sont maintenues. Mais non, ça nous a pas mal occupés, parce qu'il y a des lieux et des artistes qui vont sans doute aller très simplement vers une réduction d'activité, des licenciements, ou peut-être des cessations de paiement pour certains, parce qu'en plus de ça, on est informé au milieu de l'année budgétaire. Et donc, c'est assez cata pour pas mal de collègues.
Pour vous, des baisses de subventions, c'est, on veut dire, la culture n'est pas essentielle ?
Je ne sais pas, le message qu'il y a derrière, le président de région parle de rente de ces subventions. On rappelle juste que le terme officiel, ce sont des subventions d'équilibre. Et donc du coup, ça, l'appui de la région permet dans des financements croisés, parce que tous les autres participent, hein, le bloc communal, les départements, l'État, tout ça permet d'exercer des missions de service public, d'intérêt général, sur la durée. Donc on nous parle d'appel à projet, on nous parle de rente. C'est assez compliqué d'entendre effectivement ce discours-là, d'autant plus que on nous a agité deux choses qui ne se sont pas révélées, c'est-à-dire on déshabille les métropoles pour habiller les territoires ruraux, ça n'a pas été vérifié, puisque je connais pas mal de collègues dans les territoires ruraux qui ont été baissés aussi. On a agité aussi les petits contre les gros, et je connais là aussi d'énormes subventions d'institutions lyonnaises, mais de collègues qui ont des théâtres beaucoup plus modestes en région. Est-ce que c'est le caractère non essentiel ? C'est sûr que ça participe à un mouvement global qu'on vit. Vous pouvez en parler à nos collègues du cinéma, hein. Les deux ans de Covid ont changé les habitudes, les pratiques culturelles des Français et des Françaises. Est-ce que c'est dans le sens du vent que on a pu vérifier que pendant deux ans, avec des lieux culturels fermés, on vivait tout aussi bien, les besoins primaires étaient couverts. Après, on a toujours nous la même petite phrase, on peut vivre sans théâtre, on vit mieux avec.
Comment se porte le théâtre de Bourg-en-Bresse en ce moment, après donc cette longue période d'incertitude liée à la crise sanitaire ?
On est en pleine forme, on a même presque un peu honte de le chanter, de le clamer au regard de nos collègues. C'est ce que je dis en ce moment là, lors des soirées de présentation de saison, qu'on sait que par notre métier, on a l'occasion de circuler pas mal pour aller repérer des spectacles et puis aussi aller prendre des bonnes idées dans les autres théâtres. Il y aurait globalement un chiffre qui tourne de 15 à 40% global de baisse de fréquentation sur l'ensemble des théâtres de France. Nous, depuis début mars, on a retrouvé absolument nos chiffres d'avant la crise. Et du coup, on est très chanceux de ça, ce qui montre aussi un attachement hyper fort du public à ce lieu, à ce théâtre. Donc, au niveau fréquentation, ça va. On n'est pas impacté par les baisses de la région par rapport à d'autres. Donc, ça va. Ce label vient récompenser un travail et vient étoffer ce qu'on pourra faire. En plus de ça, on est porté par l'envie de présenter ce nouveau projet pluriel, les spectacles de la saison prochaine. Donc, voilà, on est plutôt dans une bonne dynamique. On va tout faire pour tâcher de la conserver.
Vous présentez donc la nouvelle saison du théâtre, donc, qui s'appelle Pluriel. Pourquoi ce choix ?
Alors Pluriel, en fait, c'est quelque chose qu'on dévoile, qu'on a dans les cartons depuis presque un an, au moment de mon renouvellement à l'été 2021. C'est sur ce projet de troisième mandat que j'ai été réélu. C'est un projet qui va nous emmener de cet été à l'été 25. Et en fait, le projet pluriel est assez simple. On va arrêter de fonctionner en année scolaire. On va fonctionner par période de 4 mois, qui vont être des thématiques de société. On a déjà posé 9 thématiques qui nous emmèneront jusqu'à l'été 25. Et durant ces périodes de 4 mois, on va illustrer, parcourir ces thématiques par des spectacles, mais aussi nouveautés, par des conférences, des invitations à des spécialistes, des chantiers avec les publics, pour essayer collectivement de se poser un certain nombre de questions. Et donc, voilà, ce qu'on dévoile en ce moment, c'est les deux premières thématiques. On procédera ainsi jusqu'à l'été 25, de deux en deux. Donc là, on dévoile celle de l'automne, qui est autour des souvenirs et de la mémoire. Et puis celle de début 23, autour de notre relation au vivant, toujours avec des artistes complices. Et du coup, voilà pourquoi pluriel, parce que l'idée, c'est d'aller convoquer une pluralité de points de vue sur ces sujets-là.
Est-ce que vous avez un peu des représentations coup de cœur dans les représentations à venir, à nous présenter, sans faire du favoritisme, mais bon.
C'est toujours là, ça fait 20 ans que je fais de la programmation, c'est toujours la question que je redoute le plus. Pourquoi ? C'est pas pour me planquer, ou c'est simplement qu'en fait, pour présenter une trentaine de spectacles, là c'est le cas, puisqu'on présente les spectacles de septembre à avril, il y a un passage au tamis qui a été dingue pendant un an. En fait, on a repéré 10 fois plus de spectacles, peut-être 300 spectacles. Et pour arriver à ces 30-là, c'est qu'on s'est dit que c'était absolument ces 30-là qu'il fallait proposer, parce que du coup, voilà, ça répond à une série d'ingrédients. Il y a des gens très notoires, d'autres qu'on souhaite absolument faire découvrir. Il y a des projets complètement atypiques et dingues. Alors après, qu'est-ce que je pourrais mettre en avant ? C'est sûr que du coup, sur l'automne, on va avoir des rendez-vous un peu marquants pour le grand public. Le premier visage qui dépasse, c'est sans doute celui d'Agnès Jaoui fin septembre, qui viendra présenter sa formule concert autour des musiques du monde et notamment d'Amérique latine. Du coup, on est ravis d'accueillir Agnès Jaoui, qui est peut-être jamais passé dans notre lieu. Après, on a des temps forts, c'est une autre manière d'y rentrer, c'est-à-dire qu'on est ravis de retrouver T'en veux encore, le festival de danse qu'on travaille avec le groupe Nuit, et qu'on accueillera mi-septembre, et puis après, bah, plus tard, il y a des rendez-vous qui vont être assez forts. On retrouve Emmanuel Mérieux, qui est un metteur en scène lyonnais que vraiment on adore, qui était venu sur Les Naufragés et Montrette, qui a une manière de mettre en avant les oubliés de l'histoire à laquelle on est très attaché, et puis plus tard, un petit temps fort sur les formes courtes en cirque, et puis allez, pour terminer, juste avant Noël, ça a tellement été assez dingue ce qu'on a vécu avec Kaderatou et Allegria en décembre dernier, là, pendant 3 soirs, d'une manière de revisiter la danse hip-hop, qu'on y retourne avec du coup cette fois une pièce de Fouad Bouzouf qui s'appelle Nas et qui va être un grand moment pour terminer l'année civile.
Un petit mot sur ce temps fort qui va se passer dans le quartier Terre des Fleurs, début juillet.
Oui, c'est vrai que là, tout de suite, je me projette sur l'automne parce qu'on est en plein dedans, c'est un peu notre nouvelle communication. Mais il nous reste deux grands rendez-vous avant l'été. Il y en a un dès la semaine prochaine, parce que du coup, on a eu le rêve un peu fou de donner les clés du monastère royal de Brou au Turac Théâtre et qu'ils vont vraiment s'amuser sur un parcours pendant 2 soirs. Là, on accueille le public 2 fois par soir et vraiment, ça va être assez étonnant de voir le monastère avec tous les jouets du Turac, avec des chevaliers grandeur nature. Enfin bon, bref, quand on voit ce qu'ils sont en train de dévoiler en ce moment, on leur a donné les clés de notre bar et ils ont dévoilé un cabinet de curiosité qui est assez dingue. Donc grandeur nature, ça va être assez formidable. Et effectivement, vous avez raison André, début juillet, on termine avec un petit temps fort dans le quartier Terre des Fleurs, qu'on a construit avec plein de gens, dont Bourg Habitat, dont le centre social là-bas sur place, dont Radio B, dont plein d'artistes. Et assez simplement, parce qu'il y a une communication explicite qui va sortir là-dessus, c'est une après-midi de spectacle gratuit, de 13h à 20h. Et puis surtout, ces mêmes artistes sont au contact des habitants depuis des semaines. Et du coup, c'est un projet auquel on est attaché, parce que du coup, il y a tout autant un travail souterrain entre les artistes et les habitants qu'une volonté de mettre un coup de projecteur sur ce quartier qui n'est pas toujours le plus connu de Bourg-en-Bresse.
Vincent Rochelecqa, merci.
Merci.
Vincent Rochelecqa, directeur du théâtre de Bourg-en-Bresse. Jeanne est en stage à Radio B cette semaine. Elle va nous parler plus en détail du festival sur le quartier Terre des Fleurs. Bonjour Jeanne.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Alors c'est quoi ce festival ?
Le bailleur social Bourg Habitat et le théâtre de Bourg-en-Bresse proposent le samedi 2 juillet de 13h à 20h le festival Terre des Fleurs sur scène pour célébrer la rénovation du quartier. Ce projet innovant implique les habitants et les habitantes pour les valoriser. Avec pour objectif de dynamiser la vie du quartier, de développer les liens entre locataires et d'ouvrir le quartier sur le reste de la ville. Au programme de cette journée, un après-midi festif au rythme de plusieurs spectacles. Le collectif La Piraterie proposera 3 créations sous forme de jeux de piste dans le quartier. Et aussi La Brouille, un spectacle de marionnettes autour du respect et de l'écologie. Au total, 5 compagnies se sont associées au projet et sont allées à la rencontre des habitants dès le mois de mai. La toute petite compagnie, Harmonie Communale, le collectif La Piraterie, la jeune compagnie Helio et la compagnie 3.6-3.4. Rendez-vous le 2 juillet de 13h à 20h au quartier Terre des Fleurs. C'est gratuit et ouvert à tous. Une buvette est prévue pour l'occasion et Radio B sera sur place. Vous pourrez découvrir les coulisses d'une émission de radio.
Merci Jeanne.
Vous vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député ?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
En reportage avec Radio B.
Inès, vous êtes allée à la rencontre de l'Hirondelle, un véhicule pour aider les personnes dans le besoin.
L'Hirondelle, c'est un accueil itinérant pour les personnes qui veulent être écoutées et avoir des informations, notamment pour des cas de violence conjugale. Un projet mené par la Sauvegarde 01 avec le soutien de la CAF, la Caisse d'allocation familiale et l'État. Cet accueil prend la forme d'un camping-car aménagé et c'est Jérémy Harel, éducateur spécialisé, qui traverse les routes de notre campagne pour aller au plus près des habitants. Ce matin, on le rejoint sur la commune d'Étré, au parking du tiers-lieu L'Écrin.
Bonjour, je m'appelle Jérémy Harel, je suis éducateur spécialisé. Je travaille sur l'accueil de jour à Bourg-en-Bresse, en centre-ville. Et je travaille aussi dans le bureau itinérant qu'on appelle l'Hirondelle. Donc, bienvenue, je vous fais visiter.
Allez.
Donc voici le camping-car qui a été aménagé donc, en accueil de jour mobile, hein, qui est... Géré par la sauvegarde de l'enfance, la DSEA, de l'Ain. Nous avons le frigidaire, nous avons l'eau, le micro-ondes, la cafetière, l'électricité si on a besoin de lumière. On a un colis alimentaire urgence en cas de nécessité et un peu de matériel de puériculture de type couche, lait de bébé, etc. Et une douche et des WC pour des personnes qui sont en situation d'urgence, qui dorment dehors ou qui ont besoin de se laver. Donc c'est une prestation qui est prête à l'emploi et à accueillir quelqu'un si nécessaire.
Comment ça se passe quand vous êtes dans l'Hirondelle, donc cette structure mobile ?
Bah, j'ai un petit temps d'installation et de branchement parce que ce qu'on n'a pas dit au début, c'est que les lieux où on s'installe, il faut quand même un endroit où on puisse brancher pour l'électricité. Parce qu'il y a l'ordinateur, il y a l'imprimante, j'ai une box pour Internet et différents autres services. Et du coup, c'est des sites un peu stratégiques, à la fois visibles et à la fois, il faut qu'ils restent aussi un petit peu discrets pour que les dames puissent venir nous voir. J'installe une table à l'extérieur pour être visible aussi, pour donner un signal, comme une invitation. Donc venez partager un temps avec nous. L'Hirondelle est aussi ici pour essayer de capter des personnes un peu isolées et que ça reste un lieu aussi où on peut échanger sans être dans de l'opérationnel. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met la petite table avec les chaises et puis le service à café. C'est aussi une invitation aux dames, quoi. Après, il y a, en fonction de ce qu'elles vont amener dans les échanges, il y a des choses à traiter ou pas, ou ça peut rester quelque chose uniquement sur du lien social, quoi.
Et en quoi ça change votre travail ici, sur cette structure mobile, par rapport à une structure fixe ?
Ça nous fait sortir un petit peu du champ institutionnel traditionnel. On est quand même obligé de faire un pas de côté, d'aller ce qu'on appelle le aller vers. Hein. Ça demande à aller vers les personnes et non pas attendre à ce qu'elles viennent à soi comme d'autres institutions ou un accueil de jour fixe. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit adopté aussi par les gens d'Étré ou de Belay ou de Saint-Trivier.
Et donc là, ça fait depuis combien de temps que vous faites ça sur la structure mobile ?
Donc pour le secteur d'Étré de Saint-Trivier, c'est depuis mi-janvier 2022 et Belay, on a commencé le 1er février 2022. Donc on a un petit recul de 4 mois et demi, 5 mois.
Et donc justement, sur ces quelques mois, est-ce que les gens viennent quand même ? C'est compliqué encore ?
On a du passage, on a des gens qui nous sollicitent, ça reste quand même timide, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'il y a aussi, faut que ça rentre dans les mœurs, faut qu'on soit accepté. Comme je vous disais, quand je dis adopté, je crois que c'est être accepté, en fait. Donc voilà, je pense qu'on pourra vraiment faire le point d'ici fin d'année. On aura assez de recul.
Et par exemple, les dernières personnes que vous avez vues, vous pouvez parler un peu de ce qu'elles ont demandé, ce qu'elles voulaient ?
Alors, les dernières personnes que j'ai accueillies, c'est des personnes seules qui avaient besoin de partager et de parler un peu de leur vie. C'est des échanges qui peuvent durer quand même une heure et demie, où la personne livre des choses, se sent en confiance et a besoin de partager ça à ce moment-là. C'est des personnes qui ont besoin d'être écoutées, de partager, avec quand même, dans leur parcours, des faits de violence, mais assez vieux, c'est-à-dire dans leur histoire, généralement jeunes, et qui ont besoin d'en faire part.
Et le fait que vous veniez à elles, ça les aide, vous pensez ? Elles n'auraient pas pris leur voiture pour aller jusqu'à Bourg, par exemple ?
Elles n'auraient pas été à Bourg pour ça. C'est la proximité qui a favorisé les échanges, ouais, je pense.
Et par exemple, si quelqu'un venait dénoncer des violences de son mari, par exemple, donc c'est pas arrivé encore ?
À ce jour, pas sur le dispositif Hirondelle, sur la CAI fixe.
Et donc vous, comment vous agirez dans cette condition-là ?
Alors il y a différentes choses. Déjà, il faut établir avec la personne où elle en est dans son parcours, dans son histoire. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire ? Est-ce qu'elle est prête à déposer plainte ? Est-ce que c'est trop tôt ? Enfin voilà. Déjà voir ça avec la personne et puis lui faire part de tout l'arsenal juridique qui existe, qu'elle peut s'en saisir. En tout cas, il y a un accompagnement à proposer tout en prenant en compte et en respectant le rythme de la personne. Certes, c'est illégal, c'est. Il peut y avoir un dépôt de plainte, mais tout le monde n'en est pas à la même, va pas à la même vitesse ou on n'est pas au même stade. Si on force trop, si on va trop vite, on risque de ne pas la revoir.
Je suis Sylvie Tripos, je suis conseillère conjugale et familiale à l'association Couple et Famille, qui est agréée EVARS, donc un espace de vie affective, relationnelle et sexuelle. Et donc, je suis présente ici dans le camion L'Hirondelle, tout le camping-car L'Hirondelle, une fois par mois sur le site de l'écrin des traits et aussi une fois par mois sur le site de Saint-Trivier-de-Courte.
Donc, pourquoi vous venez ici à L'Hirondelle ?
Alors, on a établi un partenariat avec la sauvegarde pour pouvoir aussi accueillir les personnes, notamment les femmes, dans le cadre aussi des violences. Et donc cet accompagnement, cette écoute, et pouvoir voilà, soit les réorienter éventuellement, ou leur donner aussi l'information avec la personne qui est là de la sauvegarde, en l'occurrence Jérémy. Et donc de par mes compétences, je peux accompagner en tous les cas ces personnes. Voilà.
Est-ce que vous trouvez déjà que venir dans une zone plus rurale, c'est pertinent pour que le dialogue se fasse ?
Alors, c'est un constat que j'avais fait dans le cadre professionnel par où je travaille, aussi bien en association que ma vacation sur l'hôpital. Et je constatais effectivement que les personnes qui étaient confrontées à la violence, si elles voulaient trouver des structures, c'était quand même assez centralisé sur Bourg. Donc le département de l'Ain est quand même très rural, avec un éloignement qui est quand même qui est conséquent, et avec les difficultés. Donc effectivement, des personnes qui peuvent être confrontées à un certain isolement, la seule façon de pouvoir être en approche, c'est d'aller vers. Donc j'étais très heureuse que cette initiative soit prise pour aller vers. Par contre, dans le milieu rural, effectivement, arriver à combattre ce, qu'en dira-t-on, ou où tout le monde sait tout. Donc ça, c'est peut-être le plus dur à franchir. Mais on peut, je pense, dans le cadre de ce camping, donner aussi bien de l'information à des personnes pas forcément directement concernées, ou en tous les cas sensibiliser aussi, ça peut être des voisins ou des personnes de l'entourage qui ont besoin d'informations, ne serait-ce que pour savoir comment accompagner. Ils sont peut-être témoins, est-ce que c'est normal, pas normal? Voilà, où on a entendu dire, on entend des choses, mais est-ce que c'est du domaine, est-ce que c'est du domaine privé ou est-ce que ça va plus loin? On peut recevoir donc tout ce public, pas forcément limité aux personnes qui peuvent être confrontées à de la violence. Bien souvent, elles n'en ont pas toujours conscience, justement. Ça peut être peut-être l'entourage qui peut les, commencer à alerter, ou en tous les cas. Et c'est l'objectif aussi de l'Hirondelle, en tous les cas de ma présence ici, arriver à faire du maillage autour des partenaires pour essayer de lutter contre la violence faite aux femmes et notamment l'impact aussi sur les enfants.
Bonjour, donc je m'appelle Louisette Lacouture, je suis directrice du centre d'hébergement et de l'accueil de jour et de l'accueil de jour mobile de la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte de l'Ain. L'Hirondelle est un dispositif donc qui s'est mis en place en fin d'année et porté par la sauvegarde de l'Ain. Au départ, c'est donc pensé pour apporter de l'information, avoir aussi une écoute, permettre aux personnes, aux femmes en milieu rural, d'avoir un lieu d'écoute, un lieu d'accueil et d'information et d'orientation pour différents sujets de la vie quotidienne, qu'il s'agisse du logement, de la santé, d'un accès aux droits, et à travers cela aussi pouvoir parler de certaines violences qu'elles pourraient subir, notamment des violences conjugales. Donc c'est une extension de notre accueil de jour qui se situe en centre-ville de Bourg-en-Bresse, place Caria, et qui permet d'aller sur des territoires moins couverts par des services et à des endroits où des femmes auraient peut-être moins facilement accès à différents dispositifs ou services. C'est pour ça que Jérémy, donc, de façon mensuelle, s'implante avec le camping-car sur différentes communes. Là, aujourd'hui, on est à Étré, mais il est également sur Saint-Rivier-de-Courte, et l'idée c'est de pouvoir intervenir avec différents partenaires locaux ou départementaux. C'est un dispositif qui est financé par les services de l'État, mais également par la Caisse d'allocation familiale. Et il y a des interventions de partenaires comme l'association Couple et Famille, la CAF également. Et puis on tend aussi à développer des interventions avec d'autres partenaires.
Et donc ça, c'est une idée que vous avez eue pour notre territoire, ça vient d'où ?
On a des appels sur l'accueil de jour de communes plus isolées en milieu rural, hein, notamment on avait des appels de certaines communes dans la Bresse, d'élus ou de professionnels qui se sentaient démunis face à des situations de femmes victimes de violences et qui ne savaient pas vers qui les orienter. Donc en croisant aussi avec d'autres partenaires, effectivement, on a fait le constat qu'il fallait se rapprocher le plus possible de ces territoires et de fonctionner sur un principe d'aller vers les personnes. Déjà de leur porter l'information et, comme le disait tout à l'heure Jérémy, mais il en parlera mieux que moi, d'être à leur écoute, hein, déjà, et puis tisser un lien, hein, pour leur permettre peut-être de révéler ou d'exprimer d'autres besoins.
Et donc pour l'avenir, est-ce que vous allez déployer ce service mobile dans d'autres communes, c'est prévu ?
Oui, alors l'idée, bien sûr, c'est celle-ci, hein, c'est de déjà d'asseoir le dispositif sur les communes existantes, mais aussi de développer. Donc là, on a le projet de développer sur Châtillon, sur Chalaronne. On intervient également sur Belay, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Pour l'instant, ciblement, on cible quand même le territoire du Babugé, mais la Bresse et puis le côté Bresse-Dombe, on va dire. Voilà. Hein? Mais c'est vrai que ça se construit. C'est aussi tout un travail de partenariat avec aussi bien les élus que les acteurs opérationnel hein, pour s'implanter et puis voir aussi où sont révélés plus les besoins en fait hein, voilà.
Et vous pouvez retrouver l'Hirondelle, l'accueil itinérant de la Sauvegarde 01, les 2e et 4e mardis du mois de 10h30 à 12h30 à Étré, à Saint-Trivet-de-Courte de 15h30 à 17h30 les 2e et 4e lundis de chaque mois, et à Belé toute la journée le 1er et 3e mardi de chaque mois. C'est sans rendez-vous en accès libre et vous pouvez contacter la Sauvegarde 01 et son accueil de jour pour plus d'informations.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et merci à Jeanne en stage cette semaine à la radio.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM. Belle semaine sur nos ondes.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral. Et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.